Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci d'être présent malgré quelques inconvénients, notamment dus au monde, plus une grève TCL qui se rajoute par-dessus, ce qui n'aide pas. Donc on vous remercie d'être présent pour cette quatrième séance. Avant de commencer, un petit peu de pub quand même. Thibaut et moi, nous sommes partis du comité Sokolov pour la libération d'Alexei Sokolov, un prisonnier politique en Russie, qui a notamment qui fait partie de la commission nationale pour les conditions de vie des prisonniers en prison. Donc, le comité Sokolov organise son premier événement samedi 12. À quelle heure? Bon, je ne sais pas l'heure, mais ça se passera à l'atelier des canulars le soir, donc je ne sais pas encore l'heure très, très précisément. Et on diffusera notamment le film d'Alexei Sokolov sur les conditions de vie des prisonniers et sur la torture en prison. Et après, il y aura un débat avec deux personnes du comité de Tchétchénie. Et Irina Tcherneva du comité Sokolov. Voilà, bon, c'était pour la publicité. Bon, aujourd'hui, exceptionnellement, on va changer les rôles, et c'est moi qui vais commencer la séance. Notamment, pour une fois, on va partir des exemples, pour après, Thibaut fera ce qu'on appelle une montée en généralité, c'est-à-dire qu'il essaiera de voir comment, à partir des exemples que je vais développer, deux exemples très précis, sur deux questions très précises des relations entre mouvement social et mouvement politique, Thibaut, après, essaiera de voir comment on peut analyser ça de façon un peu plus ample, et notamment avec le rôle du porte-parole. Bon. Alors, moi, je vais me concentrer en fait sur deux questions auxquelles je répondrai par deux illustrations en fait. Donc, je répondrai pas forcément à la question, mais je donnerai des exemples pour illustrer ces questions. Et la première, en fait, ça va être plus ou moins la poursuite de la dernière séance. Et la première, ça va être comment peut-on participer à la politique avec la gestion d'un municipe, d'un département, d'un canton, d'une région, hein, tout dépend le niveau administratif qu'on a à gérer. Et donc, du coup, cette participation qui implique aussi de prendre en compte des revendications beaucoup plus... de résoudre des problèmes avec pragmatisme, avec un temps politique immédiat. Donc comment peut-on participer à la politique avec la gestion d'un municipe et en même temps continuer à revendiquer comme mouvement social? Bon, on avait posé cette question la dernière fois, mais là, je vais vous prendre un exemple très précis qui est en fait tiré de mon étude de terrain en Équateur, et qui est le cas du mouvement indigène à Sakisili. Sakisili, ça s'écrit S-A-Q-U-I-S-I-L-I. Le canton de Sakisili, l'Équateur se divise administrativement, il y a niveau national, après la province, le canton et le municipe. Bon, ils ont rajouté, mais c'est en discussion, ils ont rajouté un niveau régional entre l'État et la province, mais pour l'instant, ce n'est pas encore installé, c'est en discussion. Le canton de Sakisili se trouve dans la province du Cotopaxi, qui se trouve en fait, plus ou moins, pour vous donner une indication, si vous avez une carte de l'Équateur en tête, ça se trouve dans les Andes centrales et à 2 heures au sud de Quito. Voilà pour ceux qui ont à peu près une carte de l'Équateur en tête. Et surtout, c'est un des trois cantons les plus pauvres d'Équateur, à majorité indigène. Et l'organisation des cantons en Équateur est assez semblable, même assez semblable à toute l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'il y a une zone urbaine qui s'appelle Sakisili, comme le nom du canton. Donc une zone urbaine, une ville, et autour de cette zone urbaine, on a des zones rurales, une zone rurale avec, là, à Sakisili, les communautés indigènes qui sont tout autour de cette zone urbaine. Pour, en gros, 75% de la population du canton vit dans cette zone rurale. Et dans cette zone rurale, elle est composée quasiment de 100% d'indigènes. Le canton, à peu près, on observe des inégalités économiques, sociales et culturelles entre zone urbaine et zone rurale, et à l'intérieur de la zone urbaine, des inégalités entre indigènes et non-indigènes. Et malgré justement ces données démographiques, 75%, à peu près les trois quarts du canton qui est indigène, voire même plus, le canton de Sakisili, en fait, a toujours été administré par des non-indigènes, notamment avec cette ségrégation culturelle. Mais à partir de 1996 et de la création du mouvement Pachakutik, dont je vous ai parlé la semaine dernière, le mouvement indigène, en fait, a gagné le canton de Sakisili. Alors, pour faciliter la compréhension, j'appellerai l'autorité du canton, je l'appellerai le maire, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en Équateur, donc c'est un peu désolé, mais... Et ses conseillers, ceux qui travaillent avec eux, je les appellerai les conseillers cantonaux. Alors, bon, très mauvais... Enfin, il faudrait que je travaille un peu là-dessus, mais bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus, mais bon, ça s'appelle comme ça en Équateur, donc je retraduis en français cette appellation. Bon, depuis 1996, ils ont mis en place différents dispositifs, et notamment des dispositifs de démocratie participative, avec petit à petit un processus qui s'est mis en place, et depuis 2002, un budget participatif. Bon. Et l'objectif du mouvement Pachakutik, c'est d'administrer ce canton différemment, et notamment d'essayer de casser cette frontière ethnique entre indigènes et non-indigènes. Bon. Une des particularités, en fait, de ce canton, c'est que pour être candidat du mouvement Pachakutik, donc du mouvement politique, il faut être membre du mouvement social qui s'appelle la Jatarichun. J-A-T-A-R-I-S-H-U-N, qui est un nom quichua, bien entendu. La Jatarichun appartient à la CONAIE, la Confédération des Nationalités Indigènes d'Équateur, donc le mouvement indigène au niveau national, donc c'est ce qu'on appelle une organisation de second degré de la CONAIE, donc c'est-à-dire une organisation sociale au niveau cantonal. Pour être candidat pour le Pachakutik, il faut être membre de la Jatarichun. Ce qu'on ne retrouve pas au niveau national. C'est une exception, en fait, de ce canton et à plus grande échelle de la province du Cotopaxi. C'est la seule province, en fait, en Équateur où il faut être membre de l'organisation sociale pour se présenter pour le mouvement politique. Ce qui entraîne, ce qui entraîne des difficultés, notamment dans cette... pour allier à la fois participation politique et mouvement social. Bon, on va voir ça un peu tout. Alors, du coup, le programme du mouvement Pachakutik se fait à l'intérieur de l'organisation sociale, à l'intérieur de la Jatarichun, et toutes les revendications sont émises par la Jatarichun. Bon. Et ce qui me fait, en fait, conclure que... Avec le développement des différents mécanismes de participation, avec les politiques publiques mises en place, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, ça deviendrait beaucoup trop compliqué, mais pour faire rapide. cette relation très, très étroite entre le maire, ses conseillers cantonaux et l'organisation sociale, le fait que qu'une bonne partie du programme politique et des politiques publiques développées dans le canton soient faites, soient décidées à l'intérieur de l'organisation sociale, le fait que cette organisation sociale contrôle ou a une influence plus ou moins importante dans tous les dispositifs et les institutions de démocratie participative. Donc de tout ça, en fait, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là, je résume. De tout ça, en fait, j'en tire une conclusion qui est encore à travailler, c'est qu'en fait, on voit apparaître dans ce canton un néocorporatisme que j'appelle le corporatisme indigène. Bon. Pourquoi ? Alors, en fait, un des problèmes de la Khatarishoun et du mouvement indigène dans ce canton, c'est comment administrer le canton de manière interculturelle. C'est-à-dire comment mettre en place des politiques publiques en faveur de tous, et pas seulement des indigènes. Et ça, c'est un problème qui a, pour le moment, le mouvement indigène à Sakissili n'a pas résolu. C'est-à-dire qu'on note encore une division ethnique à l'intérieur du canton. Et cette frontière ethnique ne s'est pas résorbée, en fait. C'est-à-dire que les non-indigènes qui avaient avant le pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir social, maintenant se sentent exclus, en fait, de ce pouvoir politique, se sentent exclus des décisions prises par la mairie et se sentent discriminés par les politiques publiques mises en place par la mairie. Ce qui est en partie vrai. Hein. Ce n'est pas seulement un ressenti, c'est aussi vrai. Et Virginie Laurent, qui est une chercheuse de l'IFEA, l'Institut français des études andines, qui, elle, a surtout travaillé, en fait, sur les mouvements indigènes, les organisations indigènes et surtout les communautés indigènes en Colombie, pose la question, en fait, dans un de ses articles, comment éviter que l'inclusion des uns ne se traduise par une exclusion des autres ? Et donc, aboutirait à elle, ce qu'elle appelle, moi j'ai horreur de cette expression, elle, ce qu'elle appelle un racisme à l'envers. Un racisme restera toujours un racisme, il n'y a pas besoin d'être à l'endroit ou à l'envers. Bon, enfin bon, passons, là n'est pas le débat. Mais cette question, comment éviter que l'inclusion des uns entraîne ou ne se traduise par l'exclusion des autres ? C'est une question qui est importante quand vous avez surtout l'objectif d'administrer un canton, dans ce cas-là, de manière différente et surtout de manière interculturelle. Et les conséquences de ce que j'appelle le corporatisme indigène, les conséquences sont importantes et notamment pour la Khatarishoun. C'est-à-dire que c'est une des conséquences à la fois internes mais aussi dans les politiques publiques mises en œuvre. Hein. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. En fait, il y a plusieurs conséquences et notamment plusieurs problèmes hein, pour la Khatarishoun, plusieurs problèmes à régler. Si vous voulez, pour de nombreux dirigeants et de nombreux dirigeants du mouvement indigène, qui ont notamment un niveau d'études supérieur. Et être dirigeant de la Khatarishoun, donc de l'organisation sociale, ça représente en fait un tremplin vers des positions politiques et donc vers une certaine reconnaissance sociale. Là, je ne parle pas du salaire, je ne parle pas du... C'est qui compte, hein, bien entendu, mais je ne parle pas de ça. Être dirigeant, président de la Khatarishoun, entraînera quasiment automatiquement le fait de se présenter quelques années plus tard comme conseiller cantonal ou comme maire. Et donc, vous allez acquérir une certaine influence politique directe, puisque vous participez directement, même en tant que dirigeant de la Khatarishoun, vous participez directement à l'élaboration et aux décisions politiques. Et après, en plus, vous aurez la fonction de maire ou de conseiller cantonal. Donc, une certaine reconnaissance sociale. Et du coup, on observe de plus en plus, à l'intérieur de la Fatah Rishon, une lutte politique entre les différents leaders, des communautés indigènes qui appartiennent à la Fatah Rishon. Afin notamment d'arriver au plus haut poste de l'organisation sociale ou pour arriver au poste politique. Et donc, du coup, ces luttes internes tendent, en fait, à diviser l'organisation indigène. Et je vais arriver à... Si seulement Ségolène avait autant d'intelligence et de savoir-faire politique que les membres de la Fatah Rishon, ça irait peut-être mieux pour elle. Mais enfin, bon, passons. Donc, du coup, en fait, pour... Des luttes internes tellement importantes qu'on en est arrivé aux dernières élections d'avril 2009 à ce qu'il y ait une séparation à l'intérieur de la Fatah Rishon. C'est-à-dire que l'ancien maire, celui qui était en place de 2004 à 2009, a voulu se représenter alors que l'organisation sociale, la Fatah Rishon, avait décidé en fait que ce serait quelqu'un d'autre qui se présenterait. Donc du coup, il a fait scission, il est parti de la Fatah Rishon avec énormément de membres de la Fatah Rishon. Ce qui a conclu donc deux candidatures indigènes se présentent, donc à l'éparpillement des voix, et le mouvement Pachakutik a perdu à 40 voix près, sur 3000 et quelques, 3500 voix je crois. 40 voix il a perdu. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la mairie là, c'est Alianza País, hein, le mouvement politique de Coréa qui l'a récupéré, et notamment un non-indigène, et surtout quelqu'un qui ne fait pas partie de la Fatah Rishon, donc ça c'est important. Mais s'il n'y avait pas eu cette scission, ils visaient encore la majorité des voix. Bon. Donc des divisions très importantes. Bon, revenons à la question... Comment peut-on participer à la politique tout en ayant une capacité de mobilisation sociale, hein, donc tout en continuant à revendiquer comme un mouvement social? Pour les indigènes et notamment pour les dirigeants de la Fatah Rishon, cette période à partir de 1996 et de la création du mouvement Pachakutik a ouvert la structure des opportunités politiques. Concept que j'emprunte à Lilian Mathieu. C'est-à-dire que l'interaction entre le mouvement social, qui est la Fatah Rishon, et la politique institutionnalisée est chaque fois plus grande. Bon, en plus, cette difficulté à concilier donc ces deux types d'actions, participation politique et mobilisation sociale, pourraient aussi s'expliquer par différentes causes, et là, notamment, des causes propres au mouvement indigène en Amérique latine. Et là, donc, je m'appuie surtout sur des études de Donnelly Van Cotte, une nord-américaine qui a beaucoup travaillé sur les mouvements indigènes en Amérique latine, et surtout sur les partis politiques émergents de ces mouvements indigènes. Donc elle a étudié différents problèmes. Le premier problème, c'est que la compétition pour les candidatures donc provoque des divisions internes, celles que je viens de vous expliquer. Deuxième problème, c'est le manque de ressources financières et le manque de ressources humaines pour arriver, en fait, à concilier les deux. C'est-à-dire que si vous avez à la fois une participation politique et une mobilisation collective, une mobilisation sociale, vos ressources financières et vos ressources humaines, en fait, sont éparpillées entre les deux. Et donc, de plus en plus, en plus, vont se détourner du mouvement social. Donc, en plus, quand vous manquez de personnel, entre guillemets, ça pose d'autant plus de problèmes. Autre problème, c'est que la coexistence entre mouvement politique et mouvement social va générer une confusion à l'intérieur du mouvement social, par rapport notamment aux hiérarchies dans la direction et dans les prises de décision. Qui prend les prises de décision, qui prend les décisions, pardon? Et qui a la légitimité de prendre les décisions? Est-ce que c'est le mouvement politique qui est le plus important, ou est-ce que c'est le mouvement social qui doit prendre les décisions? Bon. Il y a une confusion, en tout cas, entre les deux. Autre problème, qui est un problème qui peut... c'est que les leaders élus, en fait, doivent décider, une fois élus, s'ils doivent servir le mouvement qui les a portés au pouvoir, qui les a appuyés, ou alors s'ils doivent servir tous les citoyens de leur circonscription. Et là, quand on est dans des communautés indigènes, et surtout les loyautés qui ressortent, et la solidarité qui ressort de ces communautés indigènes, c'est un point qui est important. D'où la difficulté aussi de gérer le canton de manière interculturelle. Autre problème, c'est que ces leaders élus, ces leaders indigènes élus, doivent équilibrer justement la nécessité d'apprendre les nouvelles règles, d'apprendre les nouvelles règles politiques, des normes de gouvernement qu'ils ne connaissent pas, avec le fait justement, donc équilibrer cette nécessité, avec le fait de respecter les normes et les valeurs indigènes, qui sont différentes. Autre difficulté, c'est que souvent ces leaders politiques manquent d'expérience politique, manquent d'éducation scolaire, manquent de capacité de gestion, bon, etc. Voilà un peu pour répondre à la première question et pour vous donner quelques éléments en fait de réflexion par rapport à cette difficulté à allier mobilisation sociale et participation politique. La deuxième question que je vais traiter très rapidement, toujours question du temps, le manque de temps. La deuxième question que je voulais traiter, c'était comment rester critique quand la gauche est au pouvoir. Bien entendu, je ne répondrai pas à la question. Mais je vais essayer de m'appuyer là sur les exemples. Un exemple est celui des relations qu'entretient Rafael Correa, président d'Équateur, avec les différents mouvements sociaux et syndicats en Équateur. Vous allez voir que c'est chaud. Donc en Équateur, si vous voulez, on se trouve dans une situation particulière où les mouvements sociaux ont été très puissants pendant les années 90 et le début des années 2000, et notamment le mouvement indigène. Mais, différentes mobilisations sociales, notamment contre des politiques néolibérales, notamment, hein, pas seulement. Le fait que... de renverser trois présidents, trois gouvernements, 97, 2000 et 2005. Et aussi le fait que le mouvement politique qui a amené Rafael Correa au pouvoir regroupe finalement beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de leaders sociaux, de syndicats, d'associations, etc. Bon, on va voir ça. Mais depuis 2006, en fait, on observe justement la fin d'un cycle de mobilisation en Équateur. Et la fin de ce cycle de mobilisation, en fait, a coïncidé justement avec l'arrivée de Rafael Correa au pouvoir. Alors après, faudrait voir si la fin de ce cycle de mobilisation est due à l'arrivée de Rafael Correa au pouvoir, ou si c'est un essoufflement, en fait, des mouvements sociaux. Bon, moi, je pense que c'est les deux, mais bon, après... Il faudrait un peu plus analyser ça un peu plus en profondeur. Et le fait, l'arrivée de Rafael Correa au pouvoir a entraîné différentes conséquences en fait pour les mouvements sociaux. Il y a eu une cooptation par Correa de différents leaders de mouvements sociaux, mais il y a aussi eu à côté la volonté de certains autres leaders sociaux de participer à ce processus politique. Première fois que la gauche, une vraie gauche, arrive au pouvoir en Équateur, quand on a la possibilité de pouvoir participer à ce processus politique, on participe. Il n'y a pas besoin d'être équatorien. Cette arrivée et cette, bon, à la fois cette cooptation et cette volonté, le fait que des leaders sociaux participent au gouvernement, a a fini en fait de fragiliser ces mouvements sociaux. Et donc ces mouvements sociaux ne jouent plus finalement le rôle de contre-pouvoir qu'ils devraient jouer face à ce gouvernement. Notamment pour qu'ils tiennent ces différentes promesses de campagne et surtout ces différentes promesses sociales et de mettre fin à ce que Rafael Correa appelle la longue nuit néolibérale. Bon, pour le moment, le conflit le plus dangereux et surtout le plus important qui a eu à faire face Rafael Correa, c'est le conflit en fait avec le mouvement indigène, qui garde quand même, malgré un affaiblissement certain par rapport à ce qu'il était dans les années 90 et début des années 2000, garde quand même une certaine réputation et garde quand même aussi une certaine capacité de mobilisation sociale, et notamment des conflits dus à l'eau, à la redistribution des terres, à l'exploitation minière, bon, etc., etc. Et en fait, la peur de Rafael Correa, c'est que se reproduise en Équateur ce qui s'est produit en fait au Pérou en juin. Correa a suivi de très près ce qui s'est passé au Pérou. Hein, bon, pour faire très rapide, mobilisation de l'AEDESEP, une organisation indigène péruvienne, de l'Amazonie péruvienne, contre une loi sur la terre, des décrets sur la terre, et une mobilisation qui a été réprimée par la police. Bon, il y a eu des morts des deux côtés. Hein, bon, qui a fini par une grosse quarantaine de morts, il me semble, et plusieurs centaines de blessés, et de nombreuses arrestations, et le fait que un des leaders de l'AEDESEP soit parti en exil au Nicaragua. Bon. En ce moment est en train d'être discuté au gouvernement péruvien le fait de fermer en fait de fermer l'AEDESEP. Bon, passons. Ce qui est important, c'est que Correa a eu très peur et a très peur encore en ce moment qu'il se passe la même chose dans l'Amazonie équatorienne. Et il a suivi de très près, hein, je peux vous l'assurer, cette mobilisation. Et donc du coup, dès que le mouvement indigène a mis en place un soulèvement au début du mois d'octobre, et surtout il y a eu un mort indigène, Correa a tout de suite accepté de négocier. C'était la première fois que Rafael Correa acceptait de négocier avec un mouvement social depuis 2006, quand même. Pas mal pour quelqu'un qui doit représenter les mouvements sociaux. Bon. Ils partent d'une logique, en fait, très simple. C'est que les mouvements sociaux sont d'accord, et le mouvement indigène notamment, sont d'accord à 80% avec le gouvernement. Et qu'après, ils doivent mettre en place une alternative par rapport au gouvernement. Et le meilleur exemple de cette difficulté, c'est de faire un peu plus vite. Le meilleur exemple de cette difficulté, ça a été en fait la campagne pour le référendum pour l'adoption de la Constitution entre juillet et septembre 2008. Où, lors de cette campagne, en fait, beaucoup de mouvements sociaux et d'organisations sociales avaient menacé d'appeler à voter non si leurs revendications à l'Assemblée constituante n'étaient pas prises en compte. Très rapidement, une fois le texte voté, l'enjeu, justement, pour Rafael Correa, c'était pas de... Ces textes et ces organisations appellent à voter oui. Et l'enjeu pour ces organisations sociales, ça a été de faire une campagne pour le oui, mais une campagne indépendante et différente de celle de Correa. Donc, en gros, ils ont monté un front uni. Un front qui s'appelait Uni pour le oui et pour le changement. L'enjeu, c'était... Bon, en gros, une grande partie des revendications en fait, des mouvements sociaux avaient été inclus dans la Constitution. C'est une des constitutions les plus progressistes du monde. Hein. Elle est extraordinaire, cette constitution, au niveau écologique, au niveau des droits des indigènes, bon, à différents niveaux, à part au niveau des droits des femmes. Mais bon. Non. On peut en discuter. On peut en discuter plus tard. Dans la Constitution, ce n'est pas une priorité. Et donc beaucoup, en fait, Donc finalement, les mouvements sociaux se sont rendus compte qu'il valait mieux voter pour Louis, puisque quand même cette constitution était très progressiste. Et en plus, derrière, il y avait Rafael Correa et son mouvement politique qui en gros, élevait une certaine menace, c'est-à-dire si vous appelez à voter non, vous alliez avec l'opposition et il y a la menace d'un retour en fait de la droite et donc de toutes ces politiques néolibérales derrière. Donc du coup, une difficulté pour se positionner. Et d'ailleurs, ils ont voulu lancer une campagne différente, mais ils n'y sont pas arrivés. Et ça vient du fait que Rafael Correa, en fait, et son mouvement politique occupent tout l'espace politique en Équateur. Donc difficile pour ces acteurs de se positionner par rapport à ce gouvernement. Du coup, le charisme et la popularité de Correa ne laissent que peu de place aux autres organisations, et même aux organisations de gauche, pour revendiquer d'autres revendications. Et cette rhétorique présidentielle antisystémique, c'est-à-dire une rhétorique qui remet en cause le système politique, le système, donc à la fois les partis politiques, mais aussi le système politique, le Congrès, etc., cette rhétorique présidentielle antisystémique empêche justement le développement d'une opposition ou d'une critique seulement de gauche. Soit vous êtes pour Correa, et donc en faveur des politiques mises en place par son gouvernement. Si vous émettez une critique, c'est que vous êtes contre. Point. Pas d'autocritique. C'est ce qu'on appelle en fait un caractère populiste. Pour terminer, pour laisser la parole à camarade Thibault, compañeros Thibault, c'est que les acteurs politiques et sociaux en Équateur doivent donc faire face, en fait, à une polarisation des enjeux politiques autour de la personne de Rafael Correa. Et les mouvements sociaux n'échappent pas, en fait, à cette logique. Et le mouvement indigène non plus. Et donc, du coup, on peut même voir que le gouvernement même, la composition du gouvernement même de Rafael Correa est assez symptomatique, justement, de cette volonté de lutter contre le personnel politique en place, puisque c'est un gouvernement qui est majoritairement composé d'indépendants. Seulement 5 personnes de ce gouvernement faisaient partie ou avaient une trajectoire politique avant 2006, avant leur arrivée au gouvernement. Tous les autres, en fait, viennent soit du monde académique, notamment de la Flaxo, soit d'ONG, soit des mouvements sociaux, soit des syndicats, etc. Et donc, du coup, ça entraîne une autre difficulté pour les mouvements sociaux de se positionner par rapport à ce gouvernement. Et donc, pour conclure, les relations entre ces mouvements sociaux et le gouvernement sont faites finalement, sont un mélange de soutien et de contestation. C'est-à-dire, on menace de descendre dans la rue, on menace de faire un soulèvement, pour mieux négocier, finalement. Tout passe par la menace. Mais on sait derrière que si on met cette menace à exécution, c'est-à-dire une grosse mobilisation, une grosse grève, un gros soulèvement, on sait que la solution, finalement, n'est pas un renversement du gouvernement comme on a pu le connaître l'Équateur pendant 10 ans. Je rappelle, 7 présidents en 10 ans en Équateur. Et donc, du coup, ça sera ma conclusion. Certes, on est dans cette relation soutien et contestation, mais Rafael Correa doit prendre en compte les revendications de ces différents mouvements sociaux et de ces syndicats, puisque la légitimité populaire, la légitimité du vote, n'est pas donnée à un gouvernement, mais à un projet politique, à un processus politique que Correa doit respecter. Voilà, je terminerai là-dessus.
Chers camarades, annoncé que je ferais une montée en généralité. Alors, ça veut dire quoi, une montée en généralité? C'est que ce qui se passe dans ces deux exemples qui ont été donnés, dans ces deux illustrations des problèmes, des relations entre mouvements sociaux et organisations ou mouvements politiques, ce qui se joue là, c'est renvoie en fait à une ambivalence, une ambiguïté de la représentation politique, de ce qu'est même la représentation politique. Alors, je tiens à préciser, la représentation politique ne se réduit pas à la représentation politicienne au sens anglais, c'est-à-dire c'est pas simplement la représentation parlementaire et du président de la République. Un délégué syndical, d'une certaine manière, est un représentant. Je l'entends dans ce sens-là, pour élargir un peu et montrer que les enjeux qu'il y a entre les mouvements sociaux et les organisations politiques, ces enjeux-là se rejouent à chaque fois qu'il y a une tentative de mobilisation collective. C'est pour ça que je veux centrer mon analyse sur la figure du porte-parole, pour justement ne pas tomber trop rapidement dans une critique des seules organisations politiques qui prendraient la parole à la place des mouvements sociaux qui les ont soutenus, pour bien montrer que ce porte-parole, cette figure-là, se rejoue dans différents espaces, dans l'espace associatif, dans les espaces syndicaux, les espaces intellectuels. Alors, pour rendre compte de cette figure bizarre qu'est le porte-parole, je suis allé chercher du côté de deux intellectuels français qui, en parlant du rôle de l'intellectuel, me semblaient bien traiter des ambiguïtés, des tensions qu'il y a chez le porte-parole. Donc ces deux intellectuels sont d'une part Michel Foucault et d'autre part Pierre Bourdieu. Je ne les ai pas choisis par hasard, premièrement parce que ce sont des intellectuels donc, issus du monde académique qui se sont intéressés, qui ont porté notamment des revendications de critique sociale. Donc ils ont fait eux-mêmes un lien entre le savoir et le pouvoir. Et aussi parce que la discussion entre les deux, par leur position, par leur débat, montre bien la tension qu'il y a chez le porte-parole. Alors, je vais commencer par Foucault, et d'une certaine mesure aussi Deleuze, parce que Deleuze et Foucault discutaient beaucoup entre eux, et il y avait souvent un travail à deux, notamment dans les articles. Foucault et Deleuze, ils critiquent le modèle de l'intellectuel comme porte-parole. Pour eux, et là je cite, l'intellectuel théoricien a cessé d'être un sujet, une conscience représentative. Ceux qui agissent et qui luttent ont cessé d'être représentés, que ce soit par un parti, un syndicat, qui s'arrogerait à leur tour le droit d'être leur conscience. Ils critiquent le fait qu'on puisse prendre la parole à la place de quelqu'un d'autre. Et ils refusent que l'intellectuel prenne ce rôle-là. Deleuze disait à propos de Foucault, « À mon avis, vous avez été le premier à nous apprendre quelque chose de fondamental, à la fois dans vos livres et dans un domaine pratique, l'indignité de parler pour les autres. Je veux dire, on se moquait de leur représentation, on disait que c'était fini, mais on ne tirait pas la conséquence de cette conversion théorique, à savoir que la théorie exigeait que les gens concernés parlent enfin pour leur compte. » Donc Foucault et Deleuze, dans ces deux articles, en fait, dans l'un qui s'appelle « La fonction politique de l'intellectuel » et l'autre qui s'appelle « Les intellectuels et le pouvoir », donc ces articles, vous pouvez les retrouver dans les deux gros volumes sur Michel Foucault qui s'appelle « Dit et écrit », qui rassemble tous ces articles et que je vous conseille. Alors, c'est un petit peu cher, mais ça vaut son pesant de cacahuètes.
C'est bientôt Noël.
Qu'est-ce que ça veut dire? La représentation, la fiction de la représentation, c'est fini. Qu'est-ce que veut dire Deleuze par là? En fait, il y a deux critiques du porte-parole derrière ça. Il y a deux critiques qui sont classiques, mais qu'ils vont reprendre de manière originale. Premièrement, le porte-parole prétend donner sa légitimité de l'extérieur à un discours qu'il risque toujours de détourner. C'est assez évident. Imaginez un mouvement social et vous voyez apparaître deux, trois intellectuels qui parlent au nom de ce mouvement, alors qu'ils n'ont pas été à l'initiative de ce mouvement-là, qui n'ont pas forcément participé à ces actions-là. Il y a toujours ce risque-là. C'est leur première critique. Leur deuxième critique, c'est qu'il est toujours incontrôlable. Le porte-parole est toujours incontrôlable par ceux qu'il est censé représenter. Et c'est tout le problème. À quel moment le porte-parole prend la parole de ceux qu'il est censé représenter? Et essayons de se mettre à la place même du porte-parole. À quel moment ce que moi, en tant que porte-parole, je dis est effectivement ce que pensent les gens que je représente, ou bien ce que je pense qu'ils pensent, et donc je commence à autonomiser et à défendre ma vision. Pas évident comme affaire. Alors, ils essayent de trouver un modèle alternatif à l'intellectuel comme porte-parole, en disant que le problème, c'est que le théoricien, l'intellectuel, ne doit pas exprimer ou représenter par la théorie des pratiques, mais la théorie, c'est une pratique parmi d'autres. C'est-à-dire, dans un mouvement social, il y a des acteurs différents, il y a des acteurs pluriels, et on a des ressources différentes. Alors, mettons-les ensemble. Eh bien, l'intellectuel va utiliser ce qu'il sait faire. C'est-à-dire savoir parler, savoir penser avec la formation universitaire qu'il a pour aider le mouvement. Mais ce n'est en aucun cas une supériorité de la théorie sur la pratique. Ce n'est qu'une pratique parmi d'autres, la théorie. Pour essayer de résumer ces différentes idées, le contre-modèle au porte-parole, Michel Foucault va inventer la formule qui est celui de l'intellectuel spécifique. Alors, l'intellectuel spécifique peut être défini par plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est une intervention dans l'espace politique qui est fondée sur une démarche descriptive. Nous ne sommes pas là pour donner nos valeurs, pour défendre les valeurs, nous sommes là pour décrire le réel. Voilà la tâche, la première tâche de l'intellectuel spécifique. Vous allez voir ce que ça veut dire par la suite. Deuxièmement, cette démarche, elle est descriptive, est strictement descriptive, mais elle a un effet critique. Et troisièmement, cette démarche ne doit pas être fondée sur un projet global. L'intellectuel n'est pas le porteur d'un projet de société tout seul qu'il faudrait adopter. Il dit, moi je lutte aux côtés de personnes dans leur domaine. C'est pour ça qu'il parle de spécifiques. Ce sont des luttes spécifiques. Un exemple, c'est Michel Foucault. Il a plusieurs engagements personnels, notamment avec le GIP, donc le groupe Information sur les prisons. Donc il mettait ses services d'intellectuels et de porte-plume. Il les offrait à des gens qui essaient de lutter pour déjà défendre la situation des prisonniers, notamment il y avait beaucoup de prisonniers après mai 68, Mao, qui étaient dans les prisons. Et puis, il essayait de réfléchir en quoi cette prison était un révélateur de la société tout entière. Il y avait d'autres combats comme ça qu'il a défendu, bien évidemment parce que lui-même homosexuel, il a défendu la lutte homosexuelle. Donc voilà, plutôt qu'un projet global, il défendait des luttes spécifiques. Alors, l'intellectuel spécifique, il s'oppose au porte-parole, ou pour le dire plus théoriquement, il s'oppose à un modèle qu'a incarné particulièrement Sartre, à savoir ce qu'on appelle l'intellectuel universel. C'est-à-dire, pour Foucault, un intellectuel ou un quelconque porte-parole n'a pas à intervenir dans le domaine politique au nom de la justice, parce que ce sera toujours sa définition de la justice. Il va imposer ses valeurs, parce qu'on sait très bien qu'un intellectuel est plus écouté qu'un prolo en train de parler. Eh bien, il le dit, pour éviter ce biais-là, je ne dois pas défendre telle ou telle valeur, même si je pense qu'elles sont bonnes, ou telle définition de la justice, mais je vais simplement essayer de faire mon boulot jusqu'au bout, c'est-à-dire de décrire ce qui se passe. Alors, c'est là où c'est terriblement intéressant, à mon sens, c'est comment on peut se contenter de décrire le réel et en même temps critiquer. Si on ne critique pas au nom des valeurs, comment on fait? Sa position, c'est de dire la domination, ce n'est pas simplement de la force. On ne nous oblige pas seulement à faire par la violence, par la discipline, les choses. La domination, elle est souvent inconsciente. On participe nous-mêmes à notre propre domination. Toutefois, il dit, les gens ne sont pas si idiots que ça. C'est-à-dire qu'ils participent à ce processus-là, mais ils ont des capacités quand même de réflexion. Et il dit, alors il suffit de dire comment ça se passe. Et les gens se rendront compte, cette domination cachée se révélera d'elle-même, et il n'y aura pas besoin d'avoir de valeurs positives, il suffira de faire une critique négative, c'est-à-dire une critique contre les pouvoirs qui prétendent dire le réel. C'est pour ça qu'il s'est intéressé autant à la manière dont les pouvoirs se sont fondés sur des sciences. Parce que, à travers les sciences, un certain nombre de pouvoirs faisaient croire, vous voyez, c'est ça le réel. On naturalisait, on rendait réel la domination alors qu'elle est arbitraire. Et donc, son arme, son flingue à Foucault, c'est ce qu'il appelle une critique généalogique. Eh bien, c'est simple. Tous les savoirs qui se prétendent purs, tous les experts qui se prétendent parfaitement objectifs sur un plateau télé, je vais faire la généalogie, je vais faire l'histoire de leur savoir, l'histoire de leur propre discipline, et montrer que leur discipline même est née pour des raisons de contrôle social. C'est ce qu'il va faire avec la psychiatrie. C'est ce qu'il va faire aussi, d'une certaine manière, avec l'émergence de la justice pénale. C'est-à-dire que tous les experts, même dans des tribunaux, leur raison d'exister, c'est l'histoire, et c'est une histoire qui fait que le pouvoir avait besoin de se légitimer par le savoir. Alors, vous allez me dire, on s'éloigne un peu du porte-parole. Sauf que ça donne déjà des pistes pour essayer de ne pas trop rapidement parler à la place des gens. Il y a deux questions qui se posent face à cette théorie-là. La première, c'est quel statut pour les individus ? Quel statut pour les gens dominés ? Est-ce qu'ils sont totalement soumis à la domination ? Ou est-ce qu'ils ont une marge d'autonomie ? Et une deuxième question qui est celle de la position du porte-parole, qui n'est pas une position neutre, qui est toujours un dominant en puissance. La première raison, le premier fondement à l'intellectuel spécifique chez Foucault, c'est pourquoi je critique le porte-parole ? Parce que les individus ne sont pas des abrutis et qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur prenne la parole. Ils peuvent le faire très bien eux-mêmes. Et il dit, ce que les intellectuels ont découvert depuis la poussée récente, c'est que les masses n'ont pas besoin d'eux pour savoir. Elles savent parfaitement, clairement, beaucoup mieux qu'eux, et elles le disent fort bien. Mais il existe un système de pouvoir qui barre, interdit, invalide ce discours et ce savoir. Donc sa théorie de la domination, c'est ça. C'est les gens le savent très bien, mais le pouvoir empêche. Qu'est-ce que la domination ? C'est toujours empêcher la parole. Alors, c'est une position qui est intéressante, mais, et là je vais amener la position de Bourdieu, qui me semble en partie problématique. Parce qu'au fond, ça veut dire que la domination, ce n'est que ta gueule. T'es déjà intelligent, tu sais déjà très bien ce qui se passe, mais on t'empêche de le faire. Donc, l'intellectuel n'a pas à prendre la place parce que les gens savent très bien ce qu'ils font, et savent très bien ce qu'ils disent. Bourdieu, il a une position qui est inverse. Il dit que la domination est bien plus forte que ça. Il y a un voile invisible qui font que les gens participent à la domination, y consentent sans s'en rendre compte. Et donc le boulot de l'intellectuel, bon, en l'occurrence le sociologue pour Bourdieu, le boulot de l'intellectuel, c'est d'être le porte-parole pour ceux qui n'ont pas la parole dans l'espace public. De toute façon, parce qu'ils sont dominés, ils ne peuvent pas prendre la parole, parce que s'ils parlaient, ils reprendraient les mots du dominant. Ils sont tellement dominés qu'au fond, il reproduira le système sans s'en rendre compte. Alors, vous voyez, il y a une vraie question de qu'est-ce que veut dire être dominé et dans quelle mesure on est dominé. Alors, bon, ils ne s'opposent pas totalement. Bourdieu comme Foucault sont d'accord sur le fait qu'on ne doit pas intervenir en tant qu'intellectuel au nom de valeur, mais en décrivant, en faisant son boulot jusqu'au bout. Si on fait son boulot jusqu'au bout, le système, vu qu'il est fondé sur le fait d'empêcher les gens de parler, sur le fait de voiler la domination, si on la révèle, ça s'effondrera tout seul. Cela dit, Bourdieu met le doigt sur quelque chose que Foucault a du mal à voir, c'est que tout le monde n'est pas capable de savoir qu'il est dominé. Tout le monde, nous tous, nous avons des capacités différentes à nous rendre compte de la domination. Et là, on se retrouve en plein dans la question de la représentation politique. si on a des individus qui ne sont pas capables de voir qu'ils sont dominés, qui reprennent totalement, par exemple, des femmes qui reprennent totalement le discours machiste. Alors, le représentant politique, le porte-parole, va devoir s'autonomiser et dire, à la place des gens qui sont dominés, vous êtes dominés. Et il va falloir mettre en place des politiques féministes. De l'autre côté, il y a des gens qui sont aussi pas idiots et qui savent très bien ce qu'ils veulent. Et là, le porte-parole, s'il s'autonomise, c'est qu'une autre forme de domination. Vous voyez, c'est vraiment une tension entre ces deux théories. Alors, comment en sortir? Je ne prétends pas avoir la solution d'un problème aussi complexe, ni résoudre ou créer une troisième voie entre Bourdieu et Foucault, hein, parce que ça serait extrêmement prétentieux. Deux, parce qu'il me semble qu'une troisième voie est toujours une mauvaise manière de poser le problème. C'est une troisième voie née quand on caricature deux positions pour se faire un joli petit boulevard pour soi-même. Ce qui est intéressant, en les faisant discuter, ces deux auteurs-là, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une grande pluralité sociale. C'est que la domination prend des formes très plurielles. Il y a des individus qui reprennent la domination tellement que leur manière même de se définir, c'est par les mots du dominant. Un exemple. Quand on va être audible dans l'espace public, par exemple, un black ou une femme qui est dominée, elle intervient dans l'espace public en disant « Je suis un individu comme les autres et donc je veux des droits spécifiques. » C'est compliqué, parce que de fait, il y a bien une inégalité en amont. Les femmes ne sont pas traitées de la même manière que les hommes, n'ont pas les mêmes salaires, etc., etc. Et en même temps, si ils ont le discours des dominants, à savoir « nous sommes tous des individus », elle doit se nier comme femme, se nier comme dominée particulière. C'est ces tensions-là, dans la représentation politique, qui sont à l'œuvre. Et dans les mouvements sociaux, ça se multiplie encore plus, parce qu'il y a déjà dans un mouvement social un certain nombre de situations très différentes. Alors imaginez le porte-parole, comment il fait. Deuxième point que j'aimerais aborder, c'est celle de la position sociale du porte-parole. Alors, on sait par les travaux de sociologie, notamment les travaux de sociologie sur les altermondialistes, que ceux qui prennent le plus la parole devant les caméras, ceux qui sont le plus les dirigeants dans les structures des différentes organisations réunies sous le label altermondialiste, sont des gens davantage de classe moyenne, avec un niveau de diplôme supérieur à la moyenne, etc., etc. Bref, ce ne sont pas vraiment des gens les plus dominés socialement. Et pourtant, ce sont eux qui prennent la parole au nom des résistances et des luttes. Un exemple très simple, ceux qui portent le plus la lutte contre les inégalités nord-sud, c'est les gens du nord. Il y a bien évidemment des gens du sud qui se battent. Mais tendanciellement, au niveau statistique, c'est d'abord des petits blancs, classe moyenne, qui défendent la situation d'autres personnes dans d'autres continents. Et cette position-là, elle est problématique. Parce qu'à la fois, très bien, c'est très bien que ces gens-là, c'est pas parce qu'ils sont bourgeois qu'ils devraient défendre que les bourgeois, s'il faut résumer comme ça, s'il faut résumer naïvement et de manière un peu caricaturale. Cela dit, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a arrêté de juger et de dire « bande de petits bourgeois, vous n'avez pas le droit de prendre la parole », comment on fait ? Bon, camarades. Comment on fait pour être le porte-parole alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas les mêmes positions sociales que ceux qu'on défend ? Alors, Deleuze et Foucault, ils bottent un peu en touche. En disant... Bon, au fond, si on refuse le porte-parole, et si tout le monde est capable de s'exprimer, l'intellectuel va faire, comme le syndicaliste, son boulot de son côté, à côté des autres qui luttent. Sauf qu'entre lui qui fait son travail, et je donne encore une caricature, le petit indien qui monte une banque de microcrédit, qui c'est qu'on va interviewer ? Celui qui est le plus proche des caractéristiques sociales du journaliste. L'intellectuel. Donc il y a tout ce problème-là. Autrement dit, penser que la théorie, ce n'est qu'une pratique parmi d'autres, ça peut être vrai, théoriquement, mais dans la pratique, on se rend bien compte que la théorie, auprès de la population en général, a beaucoup plus de crédit que quelqu'un qui parle de son propre boulot. Encore plus quand il y a des arguments assez récurrents chez Nicolas Sarkozy qui consistent à dire « Vous ne pouvez pas parler de votre boulot parce que vous êtes corporatiste. » Alors là, c'est encore mieux. On ne peut même pas parler de la pratique. Du coup, la question de mouvements sociaux, organisations politiques, c'est la question en fait qui nous concerne tous, dans tout collectif, c'est, et ça Bourdieu le dit assez bien, il le dit, d'un côté, on a besoin d'un porte-parole. Parce que dans l'espace public, pour être visible, il faut des porte-paroles. C'est pas bien ou mal, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour donner du sens collectif, pour donner une voix, une image à ce collectif, pour le faire exister en fait publiquement, on a besoin d'un porte-parole. Et de l'autre côté, on sait très bien qu'à chaque moment, ce porte-parole peut finir par défendre ses propres intérêts et pas ceux de l'intérêt général. Bon, ça, c'est tout. Et là, il a une phrase que je trouve assez géniale, il dit « Il faut, pour lutter contre l'aliénation politique, risquer, prendre le risque de l'aliénation politique. Il faut prendre le risque du porte-parole, parce que c'est nécessaire, en étant toujours conscient qu'à un moment, il peut prendre la parole à votre place. » Alors vous allez me dire, ce n'est pas une solution en soi, c'est plutôt assez décevant finalement, de grands théoriciens qui concluent ça. Sauf que, si on tire les logiques jusqu'au bout de cette position-là, ça veut dire deux choses. La gauche gestionnaire s'est très largement autonomisée dans ses intérêts par rapport aux mouvements sociaux qu'elle était censée représenter historiquement. De l'autre côté, une partie historique de ce qu'on appelle la gauche radicale, je pense en l'occurrence surtout au groupe trotskiste, ont porté et imprégné d'une critique radicale du pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne fera pas la transformation sociale par l'accès au pouvoir, mais par la lutte sociale. Essayer de trouver une position intermédiaire ne consiste pas à une sorte de consensus mou, mais consiste à prendre en compte la tension qui existe entre la nécessité d'un porte-parole pour ceux qui n'ont pas la possibilité de parler, parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'avant même de parler, ils sont considérés comme pas crédibles ou corporatistes, et en même temps, une fois qu'on a le pouvoir, toujours se méfier, parce que le pouvoir corrompt. Ce dont nous parle Mathieu, c'est des tentatives, avec bon, leurs échecs et leurs réussites, mais des tentatives pour toujours articuler mouvements sociaux et organisations politiques. Ce n'est qu'en arrivant à articuler par des dispositifs, par des relations individuelles, c'est de là qu'on arrivera à tenir ensemble ces deux pôles, cette tension entre dans la représentation politique. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour faire place un petit peu au débat. Tu veux rajouter quelque chose?
Non.